pour ceux qui viennent et ici ou qui habitent pas loin, vous savez que nous sommes dans une série presque à la fin. Donc cette semaine aujourd'hui et la dernière et la semaine prochaine, pardon, dans laquelle on parlera de l'abus spirituel. C'est ça, la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose, mais on ne reste que deux sujets à traiter. Donc, sans filtre, en Christ, nous sommes libres d'en parler. Pourquoi on a dit cela? Parce que parfois, dans les églises, dans les assemblées, on ne parle pas de ces choses-là. On a parlé de la sexualité, on a parlé de la pornographie, on a parlé de toutes les choses qui fâchent au cœur. Parfois, on n'entend pas dans une église ou depuis ici de devant. Et on a une phrase que chaque fois qu'on est dans cette série, on la lit, c'est la liberté que j'ai en Christ me permet d'être vulnérable, donc ouvert et sans être jugé ni condamné. Donc ça devrait être le cas dans toutes les assemblées. Et l'Esprit de Dieu m'encourage à vivre sans filtre et à lui être redevable dans ma vie quotidienne, sous sa grâce et avec le but d'honorer Dieu. Voilà pourquoi sans filtre. Et le verset qui vient avec, c'est Hébreux chapitre 4, verset 13. « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux cieux de celui à qui nous devons rendre compte. » Tout est ouvert devant le Seigneur. Rien se cache devant lui, sans filtre. Alors, à part de ma famille qui connaît, quelqu'un reconnaît cette t-shirt? Ah voilà, tu connais très bien. Donc ça fait déjà un moment. C'est des t-shirts de mon équipe favorite en Argentine, Boca Juniors. Alors, et vous voyez qui c'est complètement signé. En fait, mon beau-frère, qu'il faisait avant de connaître Christ comme Sauveur, il faisait partie de la barra brava. C'est quoi? C'est des casseurs. En fait, de chaque équipe, il y a parfois des gens qui sont très passionnés par le foot et c'est plus que passionné, ils veulent parfois détruire les parties communes. Donc il a fait signer pour moi avec tous les joueurs de ce moment-là. Alors, lui, il était un fan et plus qu'un fan, il était vraiment dédié à cela. Et pour lui, dans un moment de sa vie, c'était ça. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, la question c'est quoi? Je suis un adorateur ou un fan? Il y a une différence. Je pense que déjà dans la définition des mots, vous pouvez simplement avoir une petite idée. Un fan, c'est quelqu'un qui va au stade et crie comme un malade, mais quelques heures après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est fini. C'est une fois de temps en temps. Mais quand on parle d'adorateur ou d'adoration, on parle de quelque chose de plus constant, de quelque chose de quotidien. Donc, la question pour nous aujourd'hui, c'est quoi? Je suis un fan de Dieu, de Christ, ou un adorateur? Qu'est-ce que c'est adoration? Adoration est l'honneur qui est rendu à Dieu pour ce qu'il est, sa personne, l'honneur. Et pour honorer quelqu'un, ça veut dire quoi? Se rendre un culte sacré, révérer avec grand honneur notre Dieu. La Bible ajoute que nous pouvons nous prosterner, servir et obéir en obéissance. Et ça, c'est un acte d'adoration. Adoration. La première fois où la Bible envoie ce mot adoration, c'est quand Abraham a emmené son fils Isaac sur cette montagne pour être quoi? Pour le sacrifier. La Bible dit en Genèse 22:5, dit ceci: et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons après de vous. Si nous lisons tout le passage concernant cet épisode, nous ne trouvons pas des instruments de musique. L'adoration, ce n'est pas chanter. Attention. Ça fait partie de l'adoration. Pour moi, quelle est la différence entre adoration et louange, pour simplement faire cette différence? L'adoration, c'est l'expression de ma vie, de tous les jours, comment je vis. Et la louange, un type d'expression d'adoration, c'est quoi? Ce que je parle, cette expression-là. On vient de louer le Seigneur à travers la musique. Aujourd'hui, on a changé un peu les mots. Et excusez-moi, moi, je suis un peu rebelle à différents titres. On parle de groupe de louange. Je ne suis pas contre que vous utilisez ça. Mais nous, on l'appelle le groupe de musique. Parce que la louange est une expression que tous on peut. Ce n'est pas simplement deux, trois personnes ici devant. C'est nous tous. Mais c'est quelque chose. Nous, on parle de ce qu'on a dans le cœur. On exprime ce qu'on a dans le cœur. On chante ce que nous croyons. Nous sommes des adorateurs ou nous sommes des fans. Un autre passage qui parle encore plus fort de cette adoration, c'est quand Jésus a été tenté, en Luc chapitre 4. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai tout et toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. » Et je la... Bon, déjà, il est monté. Et je la donne à qui je veux. Donc, et si donc tu le... Si tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Prosterner, ça veut dire quoi? Je rends honneur à quelqu'un. Et Jésus dit quoi? Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Est-ce que Satan disait en partie la vérité? Oui, il avait volé à l'homme dans l'Éden. Cette... Et la propriété d'être celui qui prenait en charge la terre. Satan vole cela, il veut le redonner à quelqu'un, à Jésus dans ces cas-là. Il va appeler ces parties humaines, qui dit tous les royaumes, quand même. Tu te dis, ah, il est écrit. Le Seigneur te dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Donc l'adoration est une attitude ou l'intention interne du cœur de l'homme envers Dieu, en l'exprimant par l'obéissance, le service, l'abandon de soi, l'amour pour lui, etc. L'adoration n'implique pas un ton spécifique du culte, sinon un style, une forme de vie d'une personne qui a une communion personnelle avec Dieu. L'adoration est exclusivement pour Dieu. Pour Dieu, c'est pas pour personne d'autre. Alors, comment je peux exprimer cette adoration? Comment je dois me démarquer? Écoutez bien, comment je dois me démarquer pour ne pas être un fan? Quelqu'un a dit que parfois on devient des chessistes. Des chessistes. Les dimanches matin, on s'est rempli ou pas des chessistes. Sans filtre. Je l'ai dit tout de suite, je l'ai dit tout à l'heure. On parle sans filtre. Parfois, je pointe personne. Parce que parfois, j'étais sur la même place. De venir simplement parce que c'est la tradition. Parce que le dimanche matin, il faut aller. Sinon, ici ou ici, ça traîne après. Mais pourquoi je viens? Pourquoi je viens m'asseoir à entendre quelqu'un, un Argentin qui parle, qui a un accent, pour parler de Dieu, d'être un adorateur ou un fan? La première chose qu'on doit savoir avant d'entrer de plein sur notre temps, c'est que nous appartenons à Dieu. Verset 1 Corinthiens 16, 19. Ne savez-vous pas que votre cœur est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre cœur et dans votre esprit qui appartiennent à qui? À qui? À Dieu. Donc si moi je ne m'appartiens pas à moi-même, il y a quelque chose qui va se passer que parfois on ne le voit pas, c'est que Dieu me permet d'être un bon administrateur, voilà le mot. Un bon administrateur de ce que Dieu me prête. Les enfants, la vie, ma vie, mais aussi le temps, mes talents, mes dons et mes trésors. Pour être plus simple. Temps, talents et trésors. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que la Bible dit, et c'est simple, Ecclésiastes chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Dieu a tout créé pour lui, par lui et pour lui. Et Dieu a créé un temps. 24 heures. Pourquoi? Pour qu'on puisse faire des choses qui nous invitent dans le cœur de faire. Alors, est-ce que moi, personnellement, je prends soin de ce temps-là? Le temps a été mis en œuvre par Dieu pour notre bien. Mais sommes-nous en train de l'administrer comme il faut? Sommes-nous des véritables majordomes de ce que Dieu nous a donné? Aujourd'hui, on parle, aujourd'hui on dit beaucoup de choses et parfois, on jette la culpabilité sur les personnes. Et Dieu ne veut pas nous jeter la culpabilité, sinon de nous faire redevables de ce qu'il nous a donné. Si Dieu nous a donné du temps, il faut l'utiliser comme il faut. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à quoi? À la sagesse. Enseigne-nous. Et comment on apprend? Ici. Écoutez bien, pour comprendre la valeur d'un an, demandez à un étudiant qui a échoué un examen final. Pour comprendre la valeur d'un mois, demandez aux mères qui a donné naissance à un bébé prématuré. Pour comprendre la valeur d'une minute. Un peu plus lentement. D'accord. Pour comprendre la valeur d'une minute. Demandez à ceux qui ont raté le train ou l'avion. Pour comprendre la valeur d'une seconde, demandez à une personne qui a survécu un accident. Pour comprendre la valeur d'une milliseconde, demandez à un athlète qui a gagné une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. C'est rigolo tout ça. Quelle est la valeur du temps pour moi? La Bible dit que notre esprit appartient à qui? Notre vie appartient à qui? À Dieu. Et si Dieu m'a donné tout cela, comment je dois avoir cette valeur du temps pour moi? 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 9, dit ceci. 1 Pierre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous a aussi amené, armez vous-même de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans les dérèglements, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et vos calomnies. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes, dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. La fin de toutes choses approche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Il y a un temps et cela se arrive à la fin. Pourquoi je dois avoir administré bien mon temps? Parce que j'ai eu assez de ma vie ancienne. Je ne peux pas revenir et continuer à retomber dans le même péché qu'avant. J'ai eu assez. Et parce que aussi, parce que la fin de toutes choses est proche. Il y a eu un film, et je ne me souviens pas le titre du film, mais l'idée c'est que les gens, ils avaient leur quantité de vie, c'était marqué sur le bras. Donc il avait comme un truc digital dans le bras, il disait tant d'années, tant d'heures, tant de minutes, tant de secondes. Et dans le film, vous voyez que les gens cherchaient à acheter du temps. Il fallait que quelqu'un touche comme ça d'une façon spécifique pour voler du temps à quelqu'un d'autre. Imaginons-nous en seconde que nous avons la possibilité de voir combien de temps nous reste ici sur Terre. Est-ce que nous utiliserions mieux notre temps? Oui. Alors, si je pourrais dire bibliquement, Jésus vient demain nous chercher, quelle est la première chose que vous ferez? Je n'ai pas la certitude. Peut-être c'est même aujourd'hui en sortant d'ici. Peut-être c'est même avant qu'on termine ce temps-là ensemble. On ne sait pas. Mais le temps est précieux. Comment je l'administre? Comme un adorateur ou comme un fan? Un adorateur, adorer Dieu avec mon temps, c'est de lui remercier pour tout ce qu'il fait pour moi et en moi. Signifie que je suis redevable de ce que je fais avec ce qu'il m'a donné. Si bien Dieu ne va pas être là avec un fouet quand on arrive au ciel pour nous punir parce qu'on n'a pas bien utilisé notre temps, tu nous rappelles aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas m'adorer, tu m'avais révéré avec ton temps. Tu vas prier 3 fois par jour. La Bible ne dit pas ça. Tu vas lire 1 chapitre par jour. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit, cherche-moi et tu vas me trouver. Vivre et dépenser bien le temps, ça veut dire, je vais vivre ma vie en pensant et en remerciant celui qui m'a tout donné et à celui que je vais appartenir. Qui suis-je, un adorateur ou un fan? C'est pas simplement mon temps, c'est aussi mes talents et mes dons. Quelle est la différence? Talent, ce sont des choses avec lesquelles je nais avec. Une facilité pour la musique, pour le sport, pour les choses manuelles. Alors, la différence avec les dons, ces dons spirituels, ça veut dire quoi? C'est quand on est de nouveau, ça veut dire quand on accepte Christ comme sauveur, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et avec cela, il nous donne, nous fait un cadeau, des choses spécifiques pour être, et pour pouvoir s'encourager les uns les autres dans le domaine de l'Église. La parole de Dieu dit la chose suivante, en 1 Corinthiens, chapitre 12. Versets 1 à 7. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, donc sans connaître Christ avant, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muets, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas par l'Esprit Saint. Il y a des diversités de dons, mais le même Esprit. Il y a des diversités de ministères ou de choses à faire, mais le même Seigneur. Il y a des diversités d'opérations, mais comment le fait, mais le même Dieu qui opère tout en nous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée, pourquoi? Pour l'utilité commune. Commune. Et Paul, quand il parle à cette église, en Corinthe, il parle à une église qui avait cette idée de « je veux avoir des dons spécifiques pour me montrer comment je fais ». Il y avait des gens qui parlaient en langue. Il y avait des gens qui voulaient prophétiser. Il y avait des gens qui voulaient avoir des choses spécifiques qui se voyaient. Mais Paul va vouloir changer cette façon de penser. Plus tard, dans le même chapitre, il peut dire on est un corps. On a besoin de chacun de nous. C'est difficile de voir un œil qui marche tout seul. C'est impossible. C'est toujours dans un seul corps. Donc, on ne va pas lire ça aujourd'hui. Si vous le lisez, c'est après dans le même chapitre de 1 Corinthiens 12. Donc, Paul va dire, c'est nécessaire que chacun de nous le mette au service pour l'autre. Alors, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'un cadeau, normalement, c'est pour moi. C'est pas pour partager. Pour Noël, quelqu'un me fait un cadeau, c'est pour moi. Mais là, le cadeau donné de la part de Dieu, c'est pour mettre en service l'autre. Alors, le but, c'est que Paul va dire, un corps doit marcher ensemble, sinon ça ne marche pas. On ne parle pas de la tête parce que la tête, c'est Dieu, c'est Christ. Personne n'est la tête, sauf Christ. D'accord? Donc, chacun est responsable de mettre en pratique son don. Alors, la question se pose, est-ce que vous connaissez votre don spirituel? Il y a des tests que vous pouvez accéder sur notre site. Ce n'est pas pour faire la pub du site web, hein, d'accord? Sur notre site, sur la rubrique MP3, tout en bas, vous pouvez télécharger un test de don qui n'est pas définitif. D'accord? C'est un test comme les autres, mais peut vous donner une idée de ce que vous avez. Par exemple, il y a des dons qui parlent de dons d'enseignement. C'est la facilité que donne l'Esprit de Dieu à une personne, à un homme ou une femme, pour pouvoir enseigner d'une façon plus simple la parole de Dieu. Il y a des dons d'exhortation, c'est quoi, ou encouragement. Quand il y a un frère ou sans Christ qui ne sont pas en train de marcher comme Dieu veut, il y a quelqu'un qui dit, hé, reprends-toi. Le don de miséricorde, le don de foi, tout ça, ça fait partie de ce que Dieu a donné. Nous avons au moins un don. Mais à quoi ça sert tout ça? Prenons pour l'instant l'image du corps. Les mains, c'est à quoi? À relever quelqu'un. À donner un câlin. À bouger des choses, à accompagner. Une personne qui a le don de miséricorde, d'encouragement, de service, peut éventuellement faire comme cela, être comme une main. La bouche, servant à parler de laquelle sortent des choses qui viennent de Dieu et qui guérit l'âme de la personne qui est en face. Ce sont des dons que Dieu a donnés à son Église. Les pieds servent à marcher, à soutenir le corps. Le don de la prière, la foi, l'évangélisation. Mais tout ça, c'est quoi? Il faut l'utiliser ensemble. Alors, la question qui se pose, c'est quoi? Est-ce que je connais mes dons? Parce que quand je connais mes dons, je suis responsable de les mettre en pratique. Et si je ne les mets pas en pratique, je deviens un fan plus qu'un adorateur. Parce que si j'adore Dieu, et si je dis que ma vie appartient à Dieu, Dieu me dit, tu es responsable de cela. La Bible dit que nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Dieu habite en nous, on est son temple, donc on doit mettre en pratique tout cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus qui est majeur que l'autre? Non. Justement pas. Parce que le seul qui est le plus grand, c'est la tête. Et la tête qui est Christ. Christ. Malheureusement, aujourd'hui, et beaucoup d'églises, beaucoup de frères et sœurs en Christ, pardon, et prennent cette responsabilité comme un tremplin pour avoir de pouvoir. Et comme on parlera la semaine prochaine, pour abuser spirituellement des autres. Ça, ce n'est pas ce qui est écrit. Ça, ce n'est pas ce que Jésus a voulu. Qu'on dit, voilà mon église. Ce n'est pas l'église de quelqu'un. C'est l'église de Dieu. Comment je gère mon temps? Comment je gère mes talents et dons? Vous savez, dans différentes églises et assemblées, on a besoin des gens pour la musique, des gens pour aider avec les enfants, des gens pour aider avec le nettoyage, des gens qui célèbrent avec leur foi, leur don de foi pour prier. Mais parfois, on reste assis parce qu'on ne sait pas. Mais aujourd'hui, vous savez. Aujourd'hui, vous savez quel don. Vous n'avez pas, mais vous pouvez aller voir. Et venir voir. Et c'est bien que vous preniez que vous soyez intentionnel. Et que vous allez voir votre responsable et dire, je sais que j'ai ce don-là, comment je peux servir? Croyez-moi, les responsables sont ravis d'entendre ça. Et si vous ne savez pas comment le faire, les responsables, les gens qui sont dans le leadership de l'Église sont ravis, j'espère, de pouvoir vous accompagner dans tout cela. Pour ne pas être simplement un fan, mais aussi un adorateur. Mon temps, mes talents et dons, mais aussi mes trésors. Quand on parle de trésors, on parle d'argent. Et ce sont des choses qui fâchent, et que parfois c'est très peu parlé dans les assemblées. Pourquoi? Parce que, et évidemment, malheureusement, il y a une courance évangélique, si on peut dire comme ça, qui dit, si tu donnes tant, Dieu va te donner tant. La Bible ne le dit pas. D'accord? Et il y a des autres personnes qui disent, non, il faut donner la dîme. Ça dépend de comment vous voulez le voir. Dans le Nouveau Testament, on ne voit pas Jésus qui impose la dîme. Dans l'Ancien Testament, on voit au peuple d'Israël qu'il devait donner la dîme, mais il donnait plus que 10%. Ce n'était pas simplement la dîme financière. Il fallait donner de tout ce qu'il avait. L'argent fait une partie importante de notre vie. Mais notre rapport à l'argent montre une autre réalité. Jésus a parlé par rapport à ce sujet parce qu'il peut devenir un maître dans notre vie. On ne peut pas servir deux maîtres. Et quand on vient dans une église, le but, ce n'est pas de se servir à soi-même, c'est de voir l'œuvre de Dieu avancer. L'église de Macédoine et de Acadia, comment ça s'appelle en français? Acadie, merci. L'église de Macédoine et Acadie, ils sont faits à, de leur pauvreté, d'en donner. Et ceux qui avaient, ils ont donné. La Bible dit pourquoi? C'est Romains chapitre 15, versets 25 à 29. Pour que l'œuvre que Paul était en train de faire puisse avancer, pour pouvoir combler les besoins des autres. Et cela, mes amis, c'est un acte d'adoration. Encore une fois, ce que je dis, ce n'est pas pour vous faire sentir coupable. Se dire, Seigneur, tu m'as tout donné. Ecclésiaste, le roi Salomon le dit, Dieu donne pour que je puisse profiter de cela. Mais combien je rends à ce que Dieu me donne? Et suis-je un bon administrateur de ce que Dieu me donne? Alors, combien on doit donner? Soyez sûr, on ne va pas vous demander votre fiche de paie, comme le font quelques religions. La seule chose que Dieu nous dit, c'est ouvrez votre cœur et donnez selon ce que Dieu vous a mis dans votre cœur. Et on va célébrer ensemble le montant qu'il y ait. Mais vous ne vous privez pas de faire ce geste de dire, Seigneur, voici. Dieu veut que je sois de bons administrateurs. Oui. Dieu veut que ma famille soit nourrie. Oui. Dieu veut que je sois sage avec ce qu'il me donne. Oui. En sachant ce que l'Église appartient à Dieu. Mais il se sert des personnes comme toi et comme moi pour la faire avancer. Tant dans le plan spirituel comme dans le plan physique, structurel. Ou dans le plan des ministères. Pour ceux qui viennent souvent ici, vous savez bien que nous, on dit presque jamais on va passer l'offrande. Il y a une boîte là, dans cette table-là, c'est marqué au fond. Et c'est à chacun de vous de dire, voici, voilà. Si vous ne savez pas comment donner, si vous voulez donner, par exemple, et, ou par chèque, on a une façon de faire par chèque. Ça, c'est pour les espèces. Si vous ne faites pas un virement, dans ce temps-là, dans le temps de Jésus, il n'avait pas de virement. Avait... voilà. Mais, il avait la disposition de cœur. Seigneur, tu m'as donné tant. Je te l'entends. Et ce n'est pas pour simplement pour me sentir bien, parce que sinon, il ne faut pas donner. Seigneur, je t'aime. Je vais t'adorer avec mes soeurs. La question finale se pose. Et la même question qu'on a posée au tout début. Qui suis-je? Un adorateur, un fan. Le fan, encore une fois, il vient pour un moment, et après il s'en va. Il vient profiter, écoutez bien, il vient profiter de la grâce, mais il ne veut pas être acteur de la grâce. Et adorateur, ça veut dire je suis un consommateur. Je ne sais pas si vous connaissez le mot. Consommateur. Parce que tous les jours, on consomme la grâce de Dieu. Et je suis acteur de la grâce de Dieu. Ça, c'est adorateur. Et ça, c'est la question que Dieu veut nous poser ce matin. Est-ce que j'administre bien dans cette tasse mon temps, mes talents et mes ressources? Encore une fois, on n'est pas en train de vous dire donner aujourd'hui. On est en train de vous dire où vous êtes. Dans les églises, ou dans l'assemblée où vous êtes. Ouvrez vos mains. Vos cœurs et laissez Dieu agir sans filtre. Et si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, cherchez quelqu'un qui sait comment pouvoir vous l'apprendre. Je vais vous inviter à prier.